Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Lorsque les relations humaines se transforment et transforment, finalement, pas tout le cours de la vie, mais transforme une période de la vie. Voilà, parce qu'il faut rester positif. On en parle avec ma femme d'aujourd'hui, on y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatima Rachad, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup
Merci
d'être...
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va la Fatim? Tout va bien?
Ça va très bien, super.
Alors... Il y a un sujet qui te tient à cœur, à toi, en tant que jeune femme marocaine. C'est la relation femme-femme, dans notre contexte à nous, où tu dis qu'elle peut être aussi solidaire qu'impitoyable.
Exactement, exactement. Je me présente, donc je m'appelle Fatem Zahra, mais mon nom d'usage, on va dire que c'est Fatim. Rachad, j'ai 8 ans d'expérience, je suis... entrepreneuse et consultante franco-marocaine, j'ai 8 ans d'expérience et j'ai travaillé dans un contexte IT prédominé par les hommes. Donc nous, en tant que femmes dans le monde de la tech, notre principale préoccupation, on va dire, c'était de s'imposer en tant que femmes dans un monde prédominé par les hommes, où l'inclusion de la femme dans le monde de l'IT s'est fait on va dire très progressivement, que ce soit en France, que ce soit au Maroc. On va dire que c'était une bataille. Au cours de cette expérience, j'ai travaillé en cabinet de conseil à Paris pendant 6 ans et j'ai entrepris un projet tech dans le recrutement entre Paris et Casablanca pendant ces 2-3 dernières années.
En freelance ?
En freelance, c'était aussi une SARL, donc j'ai géré aussi une équipe, une équipe de sourcing manager composée d'hommes et de femmes, dans le milieu professionnel et dans le milieu social et professionnel de manière générale. J'ai eu plus de difficultés à m'imposer en tant que femme entrepreneur dans la tech au Maroc qu'en France, par exemple. J'ai eu plus de difficultés... j'ai eu l'impression que, en face de moi, quand une femme, elle voyait une autre femme inspirante, elle la prenait plutôt pour une menace plutôt qu'une opportunité. C'est comme l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on te dit menace ou opportunité.
Ouais.
Alors l'intelligence artificielle, c'est une menace pour beaucoup de jobs qui risquent de disparaître. Mais si on la prend comme une menace, ben, ça va devenir une menace.
Menace,
mais si on l'appréhende comme une opportunité, alors elle peut nous apprendre énormément de choses. Et dans ce sens, j'ai trouvé pas mal de difficultés, effectivement, professionnellement et aussi personnellement. Et alors, quand les deux se mélangent, c'est le top.
Tu as dit que c'était plus compliqué au Maroc pour toi qu'en France avec les femmes. Donc,
oui.
C'est surtout chez nous où on est plus difficile les unes envers les autres.
Oui, j'ai trouvé que c'était plus difficile pour moi. Alors, peut-être 13 ans à Paris, 13 ans à Paris, c'est beaucoup aussi. J'ai trouvé mes interactions avec certaines femmes... en tant que jeune entrepreneuse, très, très difficile.
Tu peux nous donner un exemple, justement, pour qu'on comprenne ce par quoi tu es passée?
J'ai eu des difficultés professionnelles à imposer mon business, par exemple, lors d'un projet sur lequel j'ai travaillé dernièrement. Alors que j'avais mis en place vraiment toute une stratégie pour m'inclure dans cet écosystème. Ça me tenait à cœur de m'y inclure. J'avais préparé le terrain, j'avais pas mal de partenaires à Paris à apporter avec moi. On va dire que j'étais prête, j'étais arrivée à un niveau d'entrepreneurship où j'ai capitalisé sur mes expériences et voilà, j'étais prête et non, on m'a pas laissée. On ne m'a pas laissée, je me suis sentie cassée de l'intérieur. Voilà.
On ne t'a pas laissée, c'était des femmes ou c'était un groupe d'hommes et femmes? Comment ça s'est passé?
C'était un consortium de femmes, honnêtement. C'était un consortium de femmes allant du bas au plus haut de l'échelle. Voilà.
Et vous savez pourquoi ou pas?
Je n'ai pas d'idée précise. Je pense qu'entre le professionnel et le personnel, il y a eu une confusion qui s'est faite.
Vous connaissiez personnellement?
Il y avait déjà eu une interaction personnelle, oui. Oui,
oui.
Avec une des femmes, exact. Et voilà. Et donc, j'ai dû rentrer cet été à Paris pour m'en remettre. Mais je compte revenir parce que j'aime le Maroc et le Maroc me tient à cœur et c'est mon pays. Comme on avait discuté, toi et moi, il y a 2 ans sur l'équipe du Maroc et je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo que tu avais publiée et qui m'avait beaucoup marquée aussi. L'équipe nationale incarne notre société marocaine aujourd'hui en plein développement qui se développe. Je vais reprendre tes mots.
Et ça me touche que tu sois touchée par ce poste-là. Ça me touche vraiment. C'est pour ça que j'ai poussé.
Ça m'avait marqué parce que tu disais tellement vrai. Le Mounterab Dielna, juste d'être Kamel, ou juste de le fait que la société, je ne sais pas si tu te rappelles.
Oui, complètement, complètement. Les vraies valeurs de la société marocaine. Exactement.
Voilà.
Pendant cette période de rêve que l'équipe nationale nous a fait vivre. C'est incroyable.
Exactement.
Mais 2 ans après, j'ai encore la chair de poule quand j'en parle. Je ne sais pas,
c'était clair, on a vécu un rêve,
c'était magnifique. Mais tabarakallah, alhoum, même pour les Jeux Olympiques, c'était beau ce qu'ils nous ont offert.
Ouais, magnifique aussi, magnifique.
Absolument, absolument, absolument. Alors dis-moi, Fatim, justement, si ça avait bien fonctionné pour toi cette expérience, tu serais restée au Maroc? Tu voulais rester?
Oui, je voulais absolument rester. J'avais comme projet de rester. C'est toujours pas fini, je l'ai juste mis en pause. Je suis juste rentrée à Paris faire une pause. Il y aura une suite. J'ai une équipe qui m'attend.
Mais cette équipe, elle vit comment aujourd'hui si la patronne n'est pas là?
Ils cherchent du boulot pour la majorité. Ils sont en recherche de CDI aujourd'hui, pour la plupart. Omar, un des sourcing managers, a trouvé un poste de consultant en cabinet de conseil et Sarah a trouvé un poste au sein d'une banque. J'ai 3 autres personnes qui sont en recherche actuellement.
C'était ta première expérience au Maroc?
C'était ma première expérience, oui.
Ok. Alors, je vais te poser la question différemment. Est-ce que tu as vu grand pour une première expérience, ne connaissant pas l'environnement?
Oui, je pense que c'est exactement ça. Je pense que j'avais trop d'ambition par rapport à la réalité, peut-être. Il y avait certainement de ça.
C'est-à-dire ne pas connaître un environnement et se lancer avec quelque chose de grand, recruter alors qu'on n'a pas encore forcément le marché. Est-ce que c'est la bonne procédure à suivre?
Alors, en fait, on était sur un modèle un peu spécifique parce que c'était un modèle de recrutement offshore, c'est-à-dire que moi, j'étais en charge du business développement, donc j'allais chercher des clients à Paris, donc j'étais très souvent à Paris, et l'équipe de delivery, donc qui délivrait les profils, était basée à Casablanca. Donc, j'ai travaillé avec des clients français, mais avec des équipes au Maroc. Pendant 2 ans, j'ai travaillé sur un projet de communication au Maroc, très bien passé, à la Société Générale. Je pense que ce dernier projet, c'est un concours de circonstances. Je pense honnêtement que c'est un concours de circonstances et que c'est une expérience à réitérer autrement, dans une autre dynamique.
Laquelle, justement? Pour que notre communauté puisse apprendre au maximum de ton expérience, en fait. Parce que là, on reste un peu superficiel. Voilà.
Je comprends. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut arriver sur le marché Maroc préparé. Il faut arriver préparé. Après 13 ans à l'étranger, il y a une appréhension. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir. Il y a déjà une appréhension de découvrir un nouvel écosystème. Il y a toute cette peur d'être accepté, être intégré, évoluer. Donc, il y a déjà beaucoup de questions qu'on se pose. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être aidé, onboardé par les personnes aussi qui sont sur place quand on arrive. On ne peut pas simplement, nous, faire tous les efforts nécessaires pour être parfait dans un nouvel écosystème, justement. Si on veut éviter le phénomène de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, il faut alors que lorsque le retour des cerveaux est effectif, il y ait quand même un écosystème et un environnement qui soit encourageant à rester.
Oui,
et donc, peut-être aussi sensibiliser les gens qui sont déjà là pour bien accueillir les nouveaux arrivants, j'ai envie de dire.
Par exemple, qu'est-ce que tu proposerais? Qu'est-ce que tu aurais voulu trouver?
Par exemple, simplement plus de convivialité, plus de chaleur dans la relation, plus de...
Mais avec qui? Moi, quand je dis qu'est-ce que tu aurais voulu trouver, je pensais éventuellement peut-être à une association ou bien une plateforme d'accueil.
Alors, de ce point de vue-là, oui, de ce point de vue-là, en tant que fondatrice d'une petite start-up, je sais qu'il y a de plus en plus de choses qui se font en termes d'événements entre start-upers, entre founders au Maroc, pour qu'il y ait assez de connexion. Mais justement, on manque de connexion entre fondateurs quand on arrive. Quand on arrive, soit... Alors, il y a les personnes qu'on connaît déjà et qui ont le même statut que nous, qui se battent au quotidien avec leur boîte pour faire évoluer. Donc, je pense par exemple à un de mes amis, Brahim Zaid, qui a créé une plateforme tech dans le financement progressif. Je pense plein d'autres amis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'événements. Par exemple, à Paris, tu as par exemple des communautés, WIM par exemple, qui est une communauté de freelance qui se réunit une fois par mois dans un événement, dans un lieu, pour parler de nos projets en cours, des opportunités en cours. Est-ce qu'il y a des opportunités qu'on pourrait échanger entre nous? Voilà, je pense que les events entre founders manquent et ça doit être financé pas par des financements privés, ça doit être financé par des financements publics pour que ça fonctionne véritablement.
Donc ça, c'est, on va dire, dans la forme. Dans le fond, là, on arrive dans le fond à ce que vous disiez tout à l'heure. L'accueil de qui? Des anciens, c'est ça?
Dans le fond, l'accueil, sensibiliser les équipes aux accueils, par exemple, des étrangers. Parce que quoi, on est des étrangers quand on a passé 13 ans à Paris et qu'on rentre au Maroc en tant que Marocain. On n'est pas des étrangers, on est des Marocains. Walakin, quand même, sensibiliser en interne, faire des formations, sensibiliser les collaborateurs et dire aujourd'hui, on est dans une époque où on est dans une immigration qui va s'inverser. Où on va avoir, ça ne sera plus les Marocains qui vont émigrer vers la France, ça va être les Français qui vont rentrer au Maroc s'installer. Et il y a plusieurs, d'ailleurs, études qui le démontrent. Et donc, il faut se préparer à ça. Donc voilà.
Mais quand tu dis franco-marocaine, toi, tu es de mère et de père marocain.
Oui. De père et de mère marocains, tous les deux. J'ai été naturalisée, mais j'ai une fibre française qui est là et voilà, qui est là et je dois beaucoup à ce pays qui m'a apporté en termes d'éducation, d'aide, de plein de choses. Et oui, j'ai envie de dire aujourd'hui, à 32 ans, je suis franco-marocaine.
Mais c'est ça, quand tu dis étranger, j'ai du mal avec ça, en fait. Parce que, pour moi, tu n'es pas étrangère. Tu es une Marocaine qui est partie étudier dans un autre pays, mais tu es Marocaine. Pourquoi je te dis ça, en fait ? Parce que j'ai interviewé beaucoup de Marocains issus de l'immigration, mais la vraie, troisième génération. D'accord, et qui ont décidé de revenir, de revenir. Ils sont jamais partis de leur pays parce qu'ils sont nés ailleurs. Ils ont décidé de venir s'installer au Maroc. Mais quand eux ils parlent, jamais ils disent nous les étrangers.
Ben moi je me suis sentie étrangère dans cette expérience, honnêtement.
Ouais.
Honnêtement, je me suis sentie étrangère dans cette expérience-là. Moi non plus, je me sens pas du tout étrangère. Je rentre à Casa. Casa c'est ma mère, Marrakech. Marrakech, c'est ma mère, Casa, c'est mon père. Donc, je ne me sens pas du tout. Mais sur cette expérience-là, on m'a pris pour ce que je n'étais pas.
D'accord. Je comprends.
Tu vois ?
Ouais.
C'est plus ça. On m'a pris pour ce que je n'étais pas. Donc, il a fallu que je remette les choses que je restabilise les choses.
Ouais.
Donc, simplement.
Ouais. Et je comprends. Mais le fait que tu sois reparti en France, c'était pas une forme de fuite ? Repartir dans une zone de confort ?
Honnêtement, c'était pas l'objectif.
Ouais.
C'était pas du tout préparé. C'était pas du tout programmé. D'ailleurs, je suis en stand-by en ce moment. Je suis dans une période de transition. Où je me suis habituée à ma vie au Maroc, où j'ai quand même créé un écosystème amical, familial, de confort, etc. Où c'est difficile de rentrer et ensuite de revenir à ta vie parisienne qui manque de tout le confort qu'on a au Maroc. Ça aussi, il faut le dire.
C'est une réalité.
C'est une réalité. Ouais. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais partout. Maintenant, il faut la tranquillité d'esprit.
Ouais.
C'était ça ma priorité.
Ouais. Toi, tu étais prête à rentrer définitivement ?
Moi, j'étais rentrée définitivement.
Ouais.
Moi, j'étais rentrée définitivement. Et puis, ça faisait un moment que j'étais rentrée définitivement, que j'avais mis en place mon projet, que les équipes étaient là. On a travaillé pendant une année complète, full-time Maroc.
Ouais.
C'était la deuxième année. J'avais ma voiture, mon bureau, j'avais tout au Maroc.
Ouais.
Que là, j'ai tout lâché.
Ouais. Mais j'imagine que tu as dû investir beaucoup, en fait, mettre beaucoup de tes économies dans ce projet.
J'ai mis toutes mes économies dans ce projet. J'ai mis toutes mes économies dans ma réinstallation au Maroc. Quand je te dis que je suis revenue, c'est que je suis revenue from scratch.
Ouais, d'accord.
Donc, c'est aussi une période que je vis très, très mal.
Oui. Tu t'es sentie un peu trahie ? Trompée ?
Trahie.
Ça te donne confiance pour revenir une autre fois ? Malgré tout ?
J'ai envie de réessayer parce que je suis une battante. Et une aventurière. Maintenant, je le ferai dans des conditions sécurisées.
Oui. Ouais. Mais là, tu travailles en France ? Là, tu as...
Aujourd'hui, j'ai repris des entretiens, je suis en transition, je suis dans une transition où je suis chez ma petite sœur, où je dois tout recommencer. Quoi.
Tu sais, dans quelques mois, on pourra en reparler. Ça veut dire quoi ? En fait, ce que tu es en train de vivre, en réalité, c'est quand on a tout perdu matériellement, et on renaît de ses cendres.
Exact.
Autant c'est difficile, mais autant dans quelques mois, quand ça ira mieux, je pense que ça sera une des plus belles expériences de ta vie, en fait.
Ouais, je pense que j'apprends et j'ai beaucoup appris. J'ai déjà beaucoup appris de cette expérience. Je continue d'apprendre et je pense qu'à la fin de ce truc-là, je serai 10 fois plus forte qu'avant et ouais. que ces femmes-là, je les remercierai, limite.
Mais tu ne sais pas pourquoi ça s'est mal passé avec elles? Pourquoi elles t'ont éjectée de ce projet?
J'ai une idée qui est confidentielle.
D'accord, voilà. D'accord, d'accord. C'est une histoire de femme, comme on dit?
C'est une histoire de femme, comme on dit, oui.
Ouais, ouais,
voilà,
ouais.
Qui n'a rien à voir avec le professionnel.
Ouais. Fatim, en tout cas, merci infiniment d'avoir dévoilé cette vulnérabilité, justement, le fait de cet amour que tu as pour ton pays, cette égratignure émotionnelle que tu as vécue, et puis le fait de devoir tout reprendre à zéro.
Exact.
Tu es confiante?
J'essaye.
C'est vrai? Je sens de l'émotion dans ta voix maintenant. Je sens que ça que tu n'es pas bien maintenant.
Un peu.
Ouais.
Ça va passer. Merci Yasmine en tout cas.
Je peux pas te laisser comme ça.
Merci de m'avoir écouté.
Tu vas y arriver. Tu sais que tu vas y arriver.
Ouais.
Tu vas y arriver.
Yes.
Tu as une tête bien faite.
Yes.
Il n'y a pas de raison.
Reprendre
le salariat, reprendre le temps de te stabiliser, etc. Tu vas le faire, tu vas y arriver.
Exact.
Ok, et si tu es chez ta petite sœur, ben c'est fait pour ça, la famille, c'est fait pour ça, les petites sœurs. Moi aussi,
exactement.
J'ai une petite sœur et je sais que si jamais un jour il y a quelque chose, c'est la première personne, même si elle a 16 ans de moins que moi, c'est la première personne qui va me soutenir à tous les niveaux.
Exactement. De toute façon, dans une famille, quand il y a un membre de la famille qu'on lèse, on a lésé toute une famille. Voilà. Et j'ai été un pilier important.
Ouais.
Donc voilà. On va reprendre les choses et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve.
Ouais. On se souviendra de notre interview de septembre 2024.
Exactement. Et peut-être que septembre 2025 sera une nouvelle avec... une toute autre perspective.
Oh, ben alors je compte sur notre interview de septembre 2025, Inch'Allah.
Inch'Allah.
Ça va passer, ça va passer, Fatim.
Merci,
ça va passer.
Yasmine.
Ça ne peut que
merci
passer.
Beaucoup.
Ça ne
exact,
peut que passer.
Exact.
Inna ba'da l'usri yusr. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première. Sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.